agir. Mademoiselle, ouvrez les yeux. On croirait que vous dormez.
Je vais prendre son nom. Je vais l'adopter, m'y glisser, l'arborer sous toutes les coutures, devenir en tout point la femme suggérée par ses sons.
Mademoiselle, je vous parle.
Se profile à un léger embarras, car ce nom, je ne l'ai pas inventé. Il appartient à une autre, quoique pour ainsi dire à moitié. Mon nom est occupé par une actrice dans un film d'Éric Rohmer. La comédienne Ariel Dombal y interprète le rôle de la romancière Bérénice Beaurivage.
Écoutez, mademoiselle, ça fait 3 mois que je vous reçois en entretien individuel. D'abord, j'ai fait preuve de compréhension, parce que votre dernière expérience professionnelle ne s'était pas tellement bien passée. Puis je vous ai dégoté des annonces, des offres de formation, et vous avez fait la difficile. Mais il va falloir y mettre du vôtre, faire preuve de créativité, de polyvalence, parce que sans diplôme ni qualification, vous n'allez tout de même pas devenir ministre.
Romancière. Une activité séduisante. Bien davantage que les postes vantés par la conseillère pour l'emploi.
Très bien, mademoiselle. J'aurais fait de mon mieux. Puisque vous ne voulez rien entendre, j'appelle mon superviseur. Monsieur Jeannins, monsieur Jeannins, par ici, s'il vous plaît.
Les romancières, je les ai vues dans les magazines de salle d'attente, sur les pages de Madame Figaro. Elles y ouvrent les portes de leur salon parisien, posant à leur bureau, devant la bibliothèque, au fond de baignoires d'angle où elles barbotent pour trouver l'inspiration.
Oui, Solange, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Les romancières ignorent les réveils à l'aube pour emprunter d'épouvantables transports en commun. Levées à l'heure qui leur plaît, elles se promènent sous les volutes de longues cigarettes, à la poursuite du meilleur mot, de la meilleure phrase, et transcrivent ce qui leur est ainsi venu dans de beaux carnets reliés en cuir.
C'est mademoiselle, monsieur Jeannins. Nous l'avions déjà convoquée la semaine dernière.
Oui, je me souviens. Un cas difficile, doublé d'une absence totale de motivation.
Alors, ça ne peut pas être bien compliqué, romancière, lorsqu'on a comme moi exercé de nombreux métiers avec créativité, polyvalence.
Exactement, monsieur Jeannins. Avec elle, j'ai tout essayé. L'accompagnement personnalisé, les ateliers et les stages d'insertion. Et maintenant, des efforts, j'en ai assez fait.
Et maintenant, des métiers, j'en ai assez fait.
Mademoiselle, il faut vous ressaisir. Nous nous serons obligés de vous couper les vivres et vous finirez au revenu de solidarité active, soi-disant. En réalité, sous les ponts. Oui, mademoiselle.
Dans des bureaux, des magasins, pour me glisser une nouvelle fois sous une peau nouvelle.
Il n'a vraiment rien à en tirer. Mais voyez-vous, Solange, le plus embêtant à mes yeux, c'est encore cette histoire de harcèlement.
Précisément, monsieur Jeannins. Menacer son chef de rayon avec un ustensile et la probabilité de retrouver un emploi dans la branche après ça.
Il suffit de partager certaines caractéristiques avec la comédienne Ariel Dombal.
Vous avez raison. Vu son dossier, elle ferait mieux de quitter la Normandie.
Posséder de l'aplomb en toutes circonstances, et puis un corps gracile, de grands cheveux blonds.
Allons, c'est sans espoir. Fermez le guichet. Et vous, mademoiselle, je ne veux plus vous voir dans nos bureaux. Vous êtes impossible.
Ce qui est acquis.
Que je devais arrêter de le prendre pour écouter tes paroles. Et comme moi,
classés récalcitrants dans les centres de rééducation, il en avait maté des dizaines. Alors un de plus, un de moins.
Je lui ai demandé pourquoi il me disait cela. Je ne lui avais jamais rien fait.
Il a pris le registre des deux mains. Il m'a recommandé d'ôter mes lunettes.
Je les ai ôtées. Je n'ai pas eu le temps de plier les branches. J'ai senti un coup sur la tête. Ensuite, comme une explosion. J'ai reçu un nouveau coup sur une oreille. Et sur l'épaule. J'ai protégé mon crâne avec mes bras.
Il ne croyait pas un mot de mes histoires. Il avait passé la fin de l'après-midi dans le garage de M. Kaltenmüller. Il en était venu à la conclusion
que je mentais.
Il avait tellement réfléchi qu'il avait fini par se mettre à la place du mort sur le siège. Depuis qu'il était sorti du garage, ça le tracassait, cette histoire de suicide. Et ça travaillait très dur dans son cerveau.
J'ai ôté mes bras, les coups de registre ont redoublé. J'ai remis mes bras, j'ai rentré ma tête dans les épaules en appelant Joseph au secours. Et ça s'est calmé. J'ai entendu sa respiration.
Il avait du mal à reprendre son souffle. Il a dit qu'il arrêtait un instant.
Mais je ne perdais rien pour attendre.
Il avait déjà eu affaire à des plus coriaces. Il a cité un nom arabe. Ensuite, il a contourné le meuble de bureau. Cette fois, il était disposé à m'écouter. Mais auparavant, il a voulu savoir
ce que j'avais fait à Philippe Huty, un copain du centre, derrière la salle des fêtes, au mois de juin. Je lui ai demandé pourquoi il parlait de Philippe Huty. Je ne comprenais pas ce que Philippe Huty venait faire là.
Il a dit qu'il ne sortirait pas du bureau.
Sans que je lui ai appris pourquoi c'était passé comme ça avec Philippe Huty.
Il savait ce qui s'était produit derrière la salle des fêtes. Mais il voulait savoir pourquoi.
Je lui ai dit, c'est à cause de ma sœur. Philippe Huty va sortir avec elle.
Alors Saul m'a demandé
si j'étais une raison pour être défiguré avec un cutter. J'ai dit que non. C'était pas une raison.
Saul s'est tu. Il m'a tendu un mouchoir en papier.
Ça m'a fait peur quand j'ai aperçu du rouge sur le blanc. J'ai dit que moi aussi j'en avais assez vu. Des dérouillés, j'en ai déjà pris plus d'une fois. De toute façon, il ne cogne pas assez fort.
Alors, il a répondu que ça le faisait doucement rire.
Tu ne peux pas imaginer à quelle vitesse. J'ai tout jeté, les casseroles, les assiettes. Il s'est mis dans un coin. Il a traversé une nouvelle fois la cuisine, comme s'il était affolé. Ensuite, je me suis rendu compte que ce n'était pas lui. Il y en avait un autre qui venait de surgir de dessous le réfrigérateur. Et que donc il n'était pas seul. Qu'ils étaient plusieurs à m'attendre. Ils m'attaquaient. J'ai couru dans la chambre et j'ai revêtu mon peignoir. Mais je suis revenu et je me suis dit, je vais courir jusqu'à la station Agile et je vais prévenir Andy. Andy va revenir. Il va leur régler leur compte à ces salauds cafards. Il va les brûler vifs. Oh oui, je me suis dit, Andy serait parfaitement capable de les brûler vifs, de leur faire subir les pires tortures. Et j'ai enfilé mon imperméable. Qu'y a-t-il ? J'ai enfilé mon imperméable et je me suis dit, il va prendre de l'acide, il va les cramer, les bousiller. J'ai couru vers la porte. J'ai aperçu un cafard tapis près de la porte qui attendait, qui voulait peut-être m'empêcher de sortir.
T'empêcher de sortir ?
En barrant la route, oui. J'ai couru sur lui, j'ai hurlé, salaud cafard, salaud ! Tu m'empêches de sortir. Tu me regardes par en dessous, mais c'est moi qui aurai ta peau. Et de la porte, je suis parti jusqu'à l'évier, où j'ai trouvé cette bombe à émotion.
Shampoing à moquette.
Je voulais de jamais ou un insecticide, mais nous n'avons pas d'insecticide. Nous avons tout dans cette maison, mais pas d'insecticide.
Tu voulais une bombe au défoliant ? Ou un bout de napalm ? Histoire de les cramer dans leur lit avec leurs gosses, des cafards ?
J'ai pris la première bombe et je suis revenu devant la porte. Vois-tu, Andy ? Je me suis dit tout à l'heure une chose. Je me suis dit, ma pauvre Mila, tu ne savais même pas si le cafard qui montait la garde près de la porte était le cafard qui était sorti de dessous le réfrigérateur. Et si le cafard qui était sorti de dessous le réfrigérateur était bien celui qui avait reçu l'orange et le verre ? Et le porte-savon ?
T'es dans la cuisine ?
Je ne sais plus. Quand je suis arrivé sur le cafard, il s'est mis à courir en zigzag, de nouveau. Et je l'ai arrosé de mousse à moquette. Je l'ai suivi juste dans la chambre. Il s'est immobilisé. Il s'est retrouvé sur le dos. Je me suis approché de lui pour lui gicler une nouvelle dose de mousse.
C'était un vrai cafard ? Ou le frère d'Éléonore ? Ce frère, elle t'en a déjà parlé ?
C'est le cafard du début. Je lui dis, toi, mon salopard, je t'ai eu enfin. Tes frères et tes sœurs, je vais les avoir aussi. C'est pas de s'acheter dans l'air, comme s'il était asphyxié. Je suis allé chercher une pelle et la balayette, et quand je suis revenu, il avait disparu.
C'est impossible, si tu l'as tué.
Non, c'était pire que ça encore. Pire que si je l'avais tué, Andy. J'ai hurlé encore pour que tu viennes. Je ne pouvais plus bouger. Il avait pris le mort. Il m'avait fait croire que j'avais gagné. Pour fuir, j'ai revu un cafard qui se mettait tapis contre un coin de l'évier. Il brillait dans l'obscurité. Je n'arrêtais pas de pousser des cris. J'ai couru. Il s'est mis aussi sur le dos, comme un enfant, pour se protéger, m'entends-tu, Andy ? Comme un enfant qui aurait voulu se protéger. Je n'ai rien pu faire. Je t'ai appelé.
Tu m'as appelé ? Mais oui, là, tu sais très bien que le matin, je suis à la station. Et que dans ce cas, il faut venir. Demain, si ça recommence, tu viens à la station. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ces histoires. Et je m'en occupe. Ce n'est pas un misérable cafard.
Plusieurs cafards
qui vont nous briser notre dimanche matin.
Mais il faisait de mort, je le répète. Il était comme un bébé avec ses pattes qui papillotaient en rythme. Il pédalait dans le vide, on dirait qu'il était incapable de se remettre d'aplomb. Qui me disait, embarrassé par sa grosse carapace, non, Willa, non, ne me fais pas de mal. Et pitié de moi, Willa. Willa, chérie, ma petite Willa, je ne te ferai plus de mal. Je ne suis rien. Toi, Willa, tu es tout. Je ne te regarderai plus par en dessous. Je n'aurai plus accès par la vue, par tes antennes au-dessus de ta tête, au-dessus de cette robe, je t'en supplie, Willa, épargne-moi ! Et j'ai eu l'impression qu'il était en train de me dire. Et j'ai arrêté. J'ai lâché la bombe à moquette. Je ne lui ai fait aucun reproche. J'ai détourné mon regard de cet être répugnant, avec ses pattes bleutées qui nageaient dans l'air, et les stries blanches sur les segments de son ventre. J'ai fermé les yeux. J'ai voulu pleurer. Et là, Willa, ai-je pensé, puisqu'Andy ne vient pas à ton secours, tu dois être très courageuse. Tu dois affronter le cafard.
À l'entrée se trouvent des petites sirènes mauves et bleues
à l'envie sur des rochers verdâtres. Près de la caisse, ce sont des bassines en plastique coloré multi-usage, et entre les deux s'étend toute la gamme des ustensiles de cuisine, des produits de toilette, des jouets pour enfants et des gadgets pour leur mère. Nécessaires à couture, éponges, plumeaux, balais. Vous attrapez une sirène qui regarde dans votre direction. Vous la manipulez entre le pouce et l'index, pensant, comme tout le monde, comment peut-on acheter un truc pareil? Qui peut trouver ça joli, alors que c'est tellement laid? Vous reposez la sirène. Elle continue de vous examiner sur son étagère, d'un air un peu flou, parce que ses yeux ont été sculptés à la hâte par quelques ouvriers du sud-est asiatique, et celui-ci n'a pas beaucoup travaillé l'intensité ni la précision du regard. Il s'est contenté d'y mettre des yeux, mais enfin, ses yeux seraient en bien. Vous reprenez la sirène. Posant sur son rocher, elle vous rappelle vaguement quelqu'un. Un penseur sur son socle, un perroquet sur son perchoir, un psy dans son fauteuil. C'est à peu près là où vous auriez dû y être. Assise à 2 mètres de lui, vous tireriez vos doigts à la recherche de votre alliante absente, d'une association valable qui vous attirerait un petit satisfait quitte, et l'autre serait à sa place, absorbé par le spectacle du mur derrière vous. Ses pognes reposeraient sur son estomac, il méditerait une recette de cuisine ou un problème de mots croisés, en attendant que vous vous montriez à la hauteur de la discipline, que vous acceptiez de renoncer à vos manœuvres défensives pour devenir... Devenir quoi, au juste?
Sujet.
Un jour, il avait dit...
Sujet.
Vous avez répondu verbe, complément d'objet direct. Il a dit...
Vous l'évitez.
Quoi donc?
Le sujet.
Le sujet. Vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Vous consultez la sirène, elle n'a rien à en dire et vous non plus. Vous aviez un mari, un travail, un enfant, des obligations qui s'amoncelaient du matin au soir. Les moindres instants de votre existence étaient réglés par la nécessité. Et vous voyez bien qu'il en allait de même pour vos semblables, des hôtesses d'accueil au président directeur général des environs, de votre mère à la nourrice. Vous ne pouviez imaginer ce qui clochait dans ces systèmes superbement huilés. Vous étiez une femme tout à fait normale, jusqu'à ce qu'on vous contraigne à devenir Dieu sait quoi. Et voici que le gérant du bazar interrompt votre tête à tête avec la sirène.
C'est ce que j'essaie de faire depuis quelque temps. Et nous obtenons juif égale communiste moins PD, soit femme égale communiste moins nazi. Ce qui éclaire pas mal de choses dans l'histoire du féminisme. Si ça te semble farfelu, c'est que tu n'as pas encore compris que la vérité se trouve sur la porte des chiottes et non dans les grands traités de philosophie.
Pourquoi ?
Parce que tout le monde ne va pas dans les bibliothèques ou dans les librairies, alors que tout le monde chie.
Ici sont gravés les noms de 133 tout petits qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école. Passant, lis leurs noms, ta mémoire de leur unique sépulture.
Pierre Blau, 2 ans.
Jacqueline Boxenbaum, 10 mois.
Denise Breintich, 6 ans.
Roger Brandwein, 3 ans.
Maurice Braunstein, 7 ans.
Sarah Bromberg, 3 ans.
Kazimierz, le vieux quartier juif de Cracovie, a troqué ses ivrognes et ses prostituées contre des bars branchés. Des villes organisent des festivals de culture yiddish, inaugurent des monuments du souvenir. Les séminaires de recherche foisonnent dans les universités. On raffole de musique klezmer. Un artiste couvre les murs de graffiti. Juif, tu me manques.
Florence Hendel, 4 ans. Madeleine Feiler, 4 ans.
Mathès et Idessa sont arrêtés au 17 passage d'Evpatoria, le 25 février 1943, tôt dans la matinée, à l'heure des éboueurs et des laitiers.
6 ans. Lucien Finkenstein, 2 ans. Francine Finkenstein, 8 mois.
Henri Flammenbaum, 5 ans. Robert Goldberg, 4 ans.
Ce qui dompte l'émotion du chercheur et contient ses hypothèses proliférantes, ce sont les sources. L'histoire est la canalisation d'une passion.
Henri Flammenbaum, 5 ans. Robert Goldberg, 4 ans.
Thérèse Grinkager, 4 ans. Daniel Greener, 20 jours.
Le convoi de déportés numéro 49 quitte la gare du Bourget de Rancy au matin du 2 mars 1943. Le convoi numéro 49 étant composé en majorité de personnes âgées, voire très âgées, on peut supposer que des moribonds jonchent le plancher. Mais tout cela n'est rien, je crois. À côté de la sensation d'arrachement qui se niche au fond de vos entrailles et transperce votre nuit, vous donne envie de hurler au milieu de la somnolence générale. Les enfants, la famille, les amis, les gens qui vous connaissent par votre nom ou seulement de vue, la pièce à vivre, le lit, la machine, les activités quotidiennes s'éloignent, s'échappent de vous à chaque chaos du train. Ils appartiennent déjà à votre vie d'avant et vous restez seul dans cette masse confuse de corps en sursis, avec votre malheur et votre douleur d'être passé de l'autre côté, de ne plus appartenir tenir au monde de ceux qui vivent, se lèvent, travaillent et se couchent en pensant à demain.
Irène Kotek, 4 ans. Amiraï Kovaldo, 5 ans.
Joseph Mendler, 3 ans.
La Ginette littérature, ce peut être aussi le récit d'une quête. L'angoisse d'un problème, la qualification d'une souffrance, la volonté de comprendre ce que les hommes font en vérité. Le texte littéraire est un voyage au centre de l'absence.
1 an. Serge Muller, 2 ans.
Arrivé de nuit à Auschwitz. Les SS se mettent en rang sur la rampe, l'arme au poing, sous les projecteurs aveuglants. Le train s'immobilise. Les portières sont ouvertes à grand fracas. Les déportés regardent sans comprendre. Est-ce un arrêt parmi d'autres ou la fin du voyage? Des hurlements. Alle, heraus, los, los! À chaque mètre, un SS en armes, avec un chien. En retrait, des hommes en pyjama. Les coups de matraque, les insultes pleuvent. Avec parfois un trait d'humour. Bonjour madame, descendez, je vous prie. Qui aide Anna Schwartz, 72 ans, à descendre du wagon? Dans quel état se trouvent les petits Kagan? Mes grands-parents sont-ils toujours ensemble? On essaie de retrouver ses proches. Ordre est donné d'abandonner son paquet sur place. Le quai se couvre de valises, de sacs à main, d'ustensiles divers que Rudolf Brab et ses compagnons ramassent. Terrorisés, épuisés, mourant de faim et de soif, souillés d'excréments, les déportés sont précipités dans un univers indéchiffrable. Au bout du quai, un officier allemand leur montre une file où se ranger, à droite ou à gauche.
Janine Rotholk, 5 ans.
Anna Rothstein, 3 ans. Georges Rothstein, 7 ans.
Mathès travaille dans le fameux Sonderkommando, celui qui opère directement dans les chambres à gaz. Voici quelques-unes de leurs tâches.
Extraire les morts de la chambre à gaz.
Brûler les cadavres.
Retirer les os du bassin qui ont mal brûlé et les piler.
recueillir dans une brouette les cendres dégueulées des fours, les évacuer dans la cour.
Les charger dans le camion qui vient régulièrement prendre cette nourriture pour les poissons, comme disent les SS.
Mon grand-père à moi brûle des juifs. Pas parce qu'il l'a choisi assurément, il disparaîtra dans la même géhenne. Dans cet terrain incognita moral, mon esprit est en état de sidération. Je me force à avancer car la question m'obsède. Mathès a-t-il participé au mal? Porte-t-il une part de responsabilité, même infime, dans la démence du siècle? Primo Levi écrit que l'invention du Sonderkommando est le crime le plus démoniaque des nazis. Il transfère sur les victimes le poids de leur propre ignominie. Ils réussissent à damner l'âme des innocents avant de les anéantir.
Maurice Rosenberg, 10 mois. Monique Rosenstein, 2 ans.
Micheline Rubin, 4 ans. Monique Ringort, 2 ans.
Mathès travaille machinalement, les pupilles dilatées, les cheveux pleins de sueur. Ses doigts agrippent des juifs flasques et lourds. La tête baissée, il fuit leur regard qui reflétait l'avenir. Il tremble malgré la fournaise, voit de l'eau de vie voler aux morts. L'âme brisée de Mathès part au fil de l'eau. La révolution en Pologne, la société sans classe, la fin de l'oppression, quelle farce! Ses illusions ont crevé les unes après les autres, comme des abcès. Sa vie est un échec sur toute la ligne, un fiasco énorme, grotesque, à hurler de rire. C'est l'histoire d'un juif qui ne voulait plus être juif, d'un bourrelier qui voulait sauver le monde, d'un schlimassel incapable de se faire une place au soleil.
Annie Wollenberg, 2 ans.
Richard Wolfinson, 2 ans.
Régine Vollmark, 2 ans.
Paulette Zajac, 5 ans.
Jacques Célasso, 4 ans.
Chalia Zilberg, 4 ans.
Sans me faire un striptease. Alexandre saisit Mathias par la nuque, le renverse, décidé à le briser en deux. On ne sait pas alors si le regard qu'ils ont s'est chargé de colère ou empli d'affection, si l'un va casser l'autre ou au contraire poser ses lèvres sur les siens. D'être bien aimé.
Et je m'étais aussi déshabillée, lentement, mais plus lentement encore. Les gestes ralentis par ce dont mon regard se laissait envahir. Et si l'invite était moins franche qu'au bout de Biancourt, elle n'en était pas moins visible entre ses jambes, discrètement visible. Une amorce d'un outil, une possibilité.
Oui, mais tout va si vite. Déjà, ils sont plaqués dos à torse, et le bras d'Alexandre vient recueillir Mathias au menton, le soulève. On demeure incertain du sort des cervicales. Mais déjà l'ascension commence, qui voit Mathias saisi par la ceinture et projeté en l'air. La toile blanche valse et le ventre palpite. Tout le maillage des muscles soulevés par le souffle et tendu à l'extrême apparaît un instant.
La pression insensée qu'imprime sur nos êtres les cadences du travail quand nous sommes à l'usine. L'impossibilité d'aimer quand nous sommes dans les rues, le constat de toujours une église, un parti, une loi ou un flic nous empêche d'aller là où nous voudrions être. Au-dessus de nous-mêmes, pour saisir nos amours, nos vies et nos destins, les serrer dans nos bras et nous en imprégner. Les hurlements des mots qu'on n'a pas désirés, et le labeur sans fin que l'une ne reconnaît quand nous sommes au foyer, résignés et patientes. Cette dégringolade d'empêchement, de mépris, d'aumône, d'exhortation que nous sommes décidés à rejeter en bloc.
Tout va très vite, si vite que déjà, cerné, plaqué au mur du fond, Mathias se soulève, poussé par Alexandre qui l'a pris par le cou, serrant sa large main sur la pomme d'Adam, l'immissant au-dessous des os de la mâchoire et ainsi le hissant, ensuite le saisissant au genou, au tibia, Dieu sait où, le plaquant au plafond de Mathias, le corps plié en trois, tout souffle suspendu. Se maintiendra un temps et puis accomplira ce que la pièce prescrit. Le saut, l'acrobatie finale de ce combat, avec l'ange dans la mort, tout est allé si vite. Déjà les corps s'apaisent.
Antonio s'est assis sur le bord de son lit, sur le matelas au sol qu'on avait installé pour que j'y passe la nuit. À portée de sa voix, je me suis allongée, sur le côté, accoudée à l'oreiller, tête au creux de ma main. Et je me suis laissée aller à mon regard. Et Antonio aussi, sans bouger d'un iota, a laissé mon regard envahir tout son être. Et le plein du regard a suspendu toute possibilité de geste. Ma paralysie contemplative l'a gagné car il n'a pas tenté non plus le moindre geste. Et je n'ai posé la main sur aucune des obscures splendeurs que ce garçon offrait. Pas plus ses boucles brunes tombant sur les épaules, que son torse mat et dur, au semi de soie sombre, que ses jambes torsadées, imberbes, aides, ou que son sexe, qui ne demandait rien, qu'un souffle ou un baiser, pour se hisser dans son lit, où Gisèle le désir.
Les souffles se régulent, les tissus se replacent. Déjà, on se demande ce qu'on a vu passer, là, dont la vie fut si brève, d'où ça a pu sortir. Ça a pu filer.
Ça, que nous prenons embrassée quotidienne, dont nous décidons, en ces temps de bascule, au plus près de ce point où la renverse s'ouvre, de faire autant de pierres, autant de barres de fer, autant de cris de joie, autant d'armes choisies pour fendre l'adversaire, diffuse et décidée, sur lequel nous osons enfin lever la main.
Ma main ? Je l'ai laissée reposer sur ma hanche.
Oui, ce sont des temps violents. Et nous sommes violents, et nous ne comptons pas nous excuser de l'être. Nous sommes la tempête que vous récolterez. Nous ne rougirons pas de ces affronts lavés, et nous ne nous laisserons pas miner par le remords.
Cela tient si peu aux gestes qu'on ne fait pas, aux mots qu'on ne dit pas, aux soupirs qu'on retient.
Comment tous les deux, on vient pu l'attraper.
Et quelle que soit l'issue de nos gestes tranchants, rien n'effacera jamais l'allègement du poids pesant sur nos épaules, à l'instant où, tremblant mais rigoureux et fin, nous avons balancé sur des murs suants de peur les premiers projectiles de notre vie nouvelle.
Et l'heure possible passe, l'heure exquise, l'heure bleue, l'heure des épaules.
Ils reculent, ils saluent, ils sont deux, nous sommes seuls, ils sont deux et tenus à un corps.
Tenter de sauver ce qui pourrait l'être, leur survie sociale.
J'ai